Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir à toutes et à tous. Kim Jong-un va-t-il continuer à jouer avec le feu nucléaire? Mis en garde de tous côtés par les Américains, par les Chinois et par les Russes, le dirigeant nord-coréen sera l'objet de toutes les attentions demain, jour anniversaire de la naissance de son grand-père, fondateur de la dynastie. Une occasion dont le dirigeant pourrait profiter pour organiser une démonstration de puissance, mais un nouvel essai d'armes nucléaires ferait monter la tension. Dans la région, les diplomaties retiennent leur souffle. Correspondance de Raphaël Quinlis depuis Pékin, dans ce journal. En Guyane, un week-end d'apaisement sur le front social. À l'occasion de Pâques, de nombreux barrages ont été levés, mais pas supprimés. Geste du collectif à l'origine de la contestation depuis près d'un mois maintenant. Cela dit, le barrage qui bloque le site d'Ariane Espace à Kourou reste en place. Ce qui inquiète le PDG de l'entreprise. Explication à suivre de Sarah Maquet. La page politique de ce journal, à 9 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle en France. Nous écouterons Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste. Et puis, nous prendrons connaissance de l'enquête d'Anne Brunel du service investigation de Radio France sur l'utilisation que font les candidats et leur soutien des réseaux sociaux et sur le risque de manipulation inhérent à ce genre de support. Bienvenue dans le 22h. Concernant la Corée du Nord, un conflit pourrait éclater à tout moment. Mise en garde aujourd'hui du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a estimé lors d'une déclaration faite en compagnie de Jean-Marc Ayrault que le dialogue reste la seule issue possible. L'objectif de Pékin est d'éviter une trop forte montée de tensions autour de Pyongyang qui, demain, va célébrer à sa manière le 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, fondateur du régime, le dernier régime stalinien de la planète. Il faut dire que les velléités nucléaires de la Corée du Nord inquiètent de plus en plus. Moscou s'est dit aujourd'hui préoccupé. Les États-Unis ont déjà positionné un porte-avions dans la région et Pékin donc change de ton en essayant de reprendre la main ou au moins de se repositionner. Notre correspondante en Chine, Raphaël Quinlis.
Pékin se retrouve dans une position très inconfortable, devant jouer avec les déclarations belliqueuses de son instable partenaire américain et exaspéré par les provocations de son voisin, après s'être positionné en médiateur, appelant les deux parties au calme tandis que les menaces de guerre fusaient des deux côtés. La Chine à présent hausse le ton. Dans le dossier du nucléaire nord-coréen, le vainqueur ne sera pas celui qui tient les propos les plus durs ou qui montre le plus ses muscles, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères chinois. Si Pyongyang procède à une grande démonstration nucléaire, la réaction de Pékin sera d'une intensité sans précédent, a-t-il affirmé. La Chine demande également à Pyongyang de suspendre ses activités nucléaires pour attendre la fin de cette démonstration de force des États-Unis, à la fois pour sa propre sécurité et pour préserver sa capacité de négociation. Des négociations que Pékin désire plus que tout, car la Chine souhaite à tout prix éviter un conflit dans la région, voir tomber le régime nord-coréen au profit des Américains serait dramatique. La Chine n'entend donc pas laisser les États-Unis agir seuls sur ce dossier et elle est prête à toute éventualité. Déjà 150 000 soldats ont été déployés à la frontière coréenne. Le porte-avions américain, lui, est déjà en place. À présent, les deux parties n'ont plus qu'à attendre les prochains mouvements de Pyongyang.
Après, à Pékin, Raphaël Quinlis. Aux États-Unis, pour la première fois, un haut responsable de l'administration Trump a estimé publiquement et officiellement que l'Amérique doit se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Demi-surprise, c'est le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement qui a fait cette déclaration sur la chaîne de télé Fox News. L'accord de Paris est quelque chose que nous devons vraiment examiner de près, a déclaré Scott Pruitt. Et les États-Unis doivent en sortir, selon moi. La COP21 est, selon Scott Pruitt, une mauvaise affaire pour l'Amérique. Il considère que la Chine et l'Inde n'ont aucune obligation dans le cadre de cet accord jusqu'à 2030. Au Sri Lanka, un bidonville a été en partie enseveli aujourd'hui par une montagne d'ordures qui s'est effondrée après avoir pris feu à la périphérie de la capitale du pays, Colombo. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la quarantaine de cahutes qui ont été détruites. La pile de déchets de près de 100 mètres de hauteur avait été déstabilisée dans les heures précédentes par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. Plusieurs enfants comptent au nombre des victimes. L'armée a été mobilisée pour tenter de porter secours aux survivants. En Guyane, le barrage qui bloque depuis maintenant 3 semaines les accès au site d'Ariane Espace à Kourou reste en place, à la différence de nombreux autres qui sont ouverts depuis aujourd'hui, ce vendredi, et en prévision du week-end pascal. Une relative détente dans le conflit social qui touche le département a pu être observée, mais les membres du collectif qui organise la fronde depuis le début des troubles a prévenu. Le mouvement continue, notamment sur les points les plus stratégiques, et c'est précisément ce qui inquiète le PDG d'Ariane Espace. Il a envoyé un courrier aux élus guyanais aujourd'hui pour les alerter sur les conséquences économiques de ces blocages, des conséquences qu'il estime désormais en millions d'euros. Les explications de Sarah Maquet.
Une lettre dans laquelle Stéphane Israël rappelle l'importance économique de la base spatiale. 1700 salariés y travaillent au sein de 36 entreprises et avec le travail indirect, tourisme, hôtellerie, on arrive à un total de 9000 emplois, 40% de la masse salariale du secteur privé. Stéphane Israël parle du spatial comme d'un poumon économique pour la Guyane, un territoire de 250 000 habitants avec 23% de chômage. Pour Ariane Espace, les blocages sont aussi inquiétants dans un contexte d'hyper-compétitivité, notamment avec les récents succès du groupe américain SpaceX, des annonces du patron d'Amazon et fondateur de la start-up spatiale Blue Origin, ainsi que des initiatives des Russes et des Japonais. Alors, pas de précision pour l'instant sur le préjudice financier après 3 semaines de blocage du centre spatial de Kourou. Stéphane Israël évoque plusieurs millions de surcoûts. Pour se donner une idée, un lancement fusée plus satellite coûte en moyenne 300 millions d'euros. En cas de retard, des pénalités doivent être versées aux clients. En janvier, Ariane Espace avait annoncé un objectif de 12 lancements en 2017. Pour l'instant, il y en a eu 3. Aujourd'hui, 3 autres campagnes de lancement sont à l'arrêt. En mai, aucun lancement de prévu. Alors, rattraper le retard accumulé durant le blocage est encore possible, selon Ariane Espace, à une condition que les barrages soient levés rapidement.
Demain, 27 anciens tirailleurs sénégalais vont être naturalisés français lors d'une cérémonie à l'Élysée. Les tirailleurs sénégalais, ce sont ces soldats, pas tous sénégalais d'ailleurs, loin de là, issus des colonies françaises, notamment subsahariennes, qui ont combattu aux côtés des troupes françaises pendant les guerres coloniales et lors des 2 guerres mondiales. Eux et leur histoire ont longtemps été déconsidérés et cette cérémonie de naturalisation demain sera le résultat d'une mobilisation et d'une pétition qui a recueilli quelques 60 000 signatures dans une démarche de réparation historique. Pour Éric Dereau, historien, réalisateur, chercheur associé au CNRS et spécialiste de l'histoire coloniale, l'important n'est pas tant dans la cérémonie que dans la reconsidération nécessaire de l'action des tirailleurs sénégalais à l'échelle de la société française tout entière. Éric Dereau au micro d'Eva Jednak.
Que tous les historiens ont tenté de faire qui travaillaient sur le sujet des tirailleurs, c'était d'abord de reconnaître l'identité de ces hommes, de reconnaître ce qu'ils avaient fait. Pendant très longtemps, les tirailleurs ont souffert d'une très mauvaise image. Dans la France post-coloniale des années 70-80, les tirailleurs étaient des gens mal vus. C'était un peu des collabos, un peu des harkis. On disait finalement, ils ont travaillé pour la France, ils sont allés faire des guerres, hormis les 2 guerres mondiales, ils ont combattu en Indochine, en Algérie. Et puis petit à petit, avec tout ce qui s'est passé en France, la difficulté à obtenir des visas dans les pays africains, les tirailleurs ont dit, mais ça suffit maintenant, on voudrait un peu faire reconnaître nos droits, pas tellement pour nous, mais pour nos enfants. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de montrer que c'est une histoire commune, et cette histoire commune, elle doit être développée ici et là-bas. C'est-à-dire que cette cérémonie masque en partie l'intérêt qu'il y aurait à parler de cette histoire, bonne ou mauvaise, mais qui a eu lieu, et qui a vu des sacrifices, qui a vu des hommes venir, qui a vu des hommes repartir. Vous imaginez, en 14 et en 40, sont venus des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Africains. Imaginez, quand ils sont venus dans leur village, ils étaient porteurs d'autre chose. D'ailleurs, la plupart des leaders qui conduiront aux indépendances africaines, ce sont d'anciens combattants. C'est ça qui est intéressant dans le message des tirailleurs. C'est ça le lien qui est important. Il faut que cette histoire commune, elle soit l'occasion de réfléchir à un destin commun avec le continent africain.
Des propos recueillis par Eva Jednak. L'adversité me mobilise, déclaration de Benoît Hamon, le candidat socialiste à l'élection présidentielle, qui s'exprime demain dans les colonnes du journal Libération. Il dit vouloir miser, je cite, sur l'intelligence des électeurs de gauche pour déjouer les pronostics. Il faut dire qu'à 9 jours maintenant du premier tour de l'élection, Benoît Hamon semble en difficulté dans les enquêtes d'opinion, notamment face à un adversaire de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui mise beaucoup sur ses talents d'orateur. En réponse, Benoît Hamon entend lui faire la différence sur le fond. Écoutez-le au micro de Laurence Perron à Rennes, où il est arrivé ce soir pour entamer une grande tournée dans tout l'ouest du pays. Une tournée qui s'achèvera dans la semaine par un meeting à Toulouse.
Le 8 mai, il y aura un nouveau président de la République. J'espère pas une nouvelle, pour le coup, personne ne m'en voudra trop, mais un nouveau. Et ce nouveau président de la République, il va falloir qu'il ait un peu plus qu'une feuille blanche pour pouvoir diriger le pays. C'est-à-dire que là, le souvenir des grands meetings, il va vite s'effacer parce qu'on va rentrer dans le dur. Et le dur, ce seront c'est la confrontation avec des États qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Donc ce serait bien qu'on soit un peu moins alignés ou sur les États-Unis ou sur le Kremlin. Comment on finance la transition écologique? Sans investissement à l'échelle de l'Europe, nous n'y parviendrons pas. On a besoin des fonds européens. Donc terminé. Donc on est militant, on est écologiste d'un côté. Et on voudrait le faire sans l'Europe, ça marche pas. C'est-à-dire que il y a des mots d'autodis, c'est Paul Valéry qui disent qu'il chante plus qu'il ne parle. Bon, moi j'entends beaucoup de chansons dans la campagne présidentielle, ça serait bien qu'à un moment on revienne un peu à des choses. Donc ici c'est du dur. La réalité c'est quand on se cogne, hein. C'est Lacan qui dit ça. Je voudrais pas qu'on se cogne trop. Vous voyez le 8 mai. Là moi je me suis préparé à diriger ce pays, pas simplement à faire une jolie campagne.
Voilà, et c'est à cette échéance du premier tour de l'élection présidentielle qu'est consacrée notre enquête ce soir. Plus précisément, nous allons nous intéresser à l'utilisation que font les candidats, tous les candidats, des réseaux sociaux plus ou moins adroits, plus ou moins malins. Les 11 candidats sont tous très présents sur Internet. Certains y ont fait une percée spectaculaire ou du moins peut-on le croire. Bonsoir Anne Brunel.
Bonsoir Benoît.
Du service enquête et investigation de Radio France, vous avez enquêté sur les risques de manipulation des réseaux sociaux sur la formation de l'opinion politique.
Oui, parce que quand on sait que plus de 40% des 18-24 ans ont fait des réseaux sociaux leur première source d'information, il importe aussi de savoir quel type de manipulation sont à l'œuvre sur ces réseaux.
Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Oui, et surtout de plusieurs natures. Ça commence d'abord avec les chiffres de performance. Et c'est important quand on sait que la popularité d'une publication, d'une nouvelle, va favoriser sa dissémination et par conséquent sa lecture. Eh bien, ces chiffres, ils peuvent être complètement artificiels, comme l'explique le sociologue Antonio Casilli.
Il y a une économie cachée qui est faite d'un ensemble de structures plus ou moins légales et plus ou moins visibles, souvent dans des pays émergents. On appelle ces structures des fermes à clics. C'est des locaux dans lesquels des dizaines ou des centaines d'ordinateurs, voire parfois de terminaux mobiles, sont mis en place et des personnes à longueur de journée cliquent sur des contenus, des images, des articles pour les partager, pour ajouter de la valeur. Parfois, ils laissent des commentaires, ce qui, évidemment, remet en discussion tout ce que nous savons sur la circulation virale de l'information.
Et même tactique, hein, pour fausser la popularité des pages officielles, on peut l'exagérer. Alors techniquement, j'ai demandé à un spécialiste de ce genre d'action marketing qui opère depuis la Tunisie, comment il s'y prend.
J'ai deux méthodes. C'est une application qu'on a développée, une sorte de jeu. Pour gagner des points, il faut cliquer sur j'aime.
Sur le j'aime de ce jeu ou sur le j'aime de la page?
Pour eux, ils cliquent sur le j'aime du jeu. Par exemple, partager et tout ça. Et en arrière-plan, ils cliquent sur le j'aime de la page.
Donc en fait, les gens n'en ont pas conscience.
Ils n'ont pas conscience. C'est-à-dire, j'injecte des faux profils. Les faux profils, c'est des profits créés par robots. Par exemple, le client, il veut 100 000 en 2 jours.
100 000 nouveaux abonnés en 2 jours, c'est ça?
Oui, je peux livrer jusqu'à 50 000 par jour en faux profil.
Alors on nous induit en erreur en faussant la popularité, Anne, mais plus grave encore, les informations elles-mêmes peuvent se révéler bidon.
Et oui, vu que le modèle économique des plateformes sociales repose sur la captation de l'attention, eh bien ça favorise la création de faux contenus, accrocheurs, étonnants. Et on les fabrique, ces images, ces titres et ces posts, dans ce que Antonio Casilli appelle des usines à contenu.
Les usines à contenu sont des structures qui rappellent parfois des rédactions ou des agences de communication, sauf qu'elles sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus atomisées. Vous avez des personnes qui travaillent une fois par semaine pour écrire un texte. Ça peut être par exemple pour faire de la publicité pour une figure politique, mais parfois cela sert exclusivement pour créer une suite de mots-clés qui sert en gros à tricher avec les algorithmes des moteurs de recherche.
Alors, faux chiffres, fausses informations, on mesure ce que ça peut donner évidemment en politique, Anne Brunel, mais il y a encore un autre travers, c'est que sur un réseau social, on ne parle en général qu'aux gens qui pensent comme nous.
Oui, c'est étanche. On pourrait croire que la foison d'infos qui défile sous nos yeux va favoriser le débat, mais en réalité tout est cloisonné et ça va rendre le débat plutôt impossible. Et c'est ce que pressent Tristan Mendès-France, expert en stratégie de médias sociaux.
Si vous vous informez via votre réseau social, vous vous informez via des informations qui ont été partagées par des gens qui ont une tonalité idéologique et politique pas loin de la vôtre. Ça enferme les communautés, ça radicalise un peu les opinions. Comment est-ce que Fillon peut parler aux électeurs de gauche sur Facebook? Ben, il peut pas. Il peut pas les atteindre. Il faudrait qu'il parle sur un média ou qu'il soit sur un article qui soit relayé par des amis de cette même personne. Ce n'est pas possible. la fabrique de l'opinion de demain se fera à travers les réseaux sociaux. Donc ça, ça va avoir des conséquences profondes et je crois que c'est le début de commencement de quelque chose.
Et de quelque chose d'un peu inquiétant en tout cas et qui pèsera sans doute de plus en plus lourd en période de confrontation d'idées.
Merci beaucoup Anne Brunel pour cette enquête à retrouver en longueur et en images sur notre site internet franceculture.fr. Le temps demain sera gris et humide d'après Météo France. Ce sera vrai pour tout le monde ou presque. Les nuages seront majoritaires sur l'Hexagone. Quelques averses sont à prévoir au fil des heures. Des régions du centre, elles se déplaceront peu à peu vers l'est. Pour ce qui est des températures, on attend de 12 à 18 degrés pour les maximales, 20 degrés à Toulouse et jusqu'à 24 sur le sud, le long de la Méditerranée.